pourrait pratiquement faire une histoire des remparts, parce qu'on voit à partir de 1350, plus de 1360, des impôts supplémentaires ou des maisons qui sont abattues pour protéger le rempart, et jusqu'à environ le rempart, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est la fin du XIVe siècle. C'est-à-dire que la ville ayant été pillée, ayant été brûlée, la seule qui résiste, c'est sur la hauteur, le palais de l'évêque. Donc on va faire une ville un peu en fer à cheval, c'est-à-dire ce qu'on voit actuellement, la porte Saint-Saul, la porte Saunière, avec une dizaine de tours. On devine là, qui passe à mi-hauteur, et la ville est une sorte de fer à cheval, c'est-à-dire pas de partie basse qui sera toujours ruinée, mais à mi-hauteur, et le palais de l'évêque qui reste en haut. Alors ça, c'est 1380-1390, et on voit comme par hasard, dans la région, on prend Castellane avec les remparts et 12 tours, et bien 1380 aussi, même passage de routier, Quinçon, c'est 1400 ou 1410 les remparts, tout ça, c'est la même époque. Alors, ces routiers, je l'ai dit tout à l'heure, comment ils se battent? Bon, ils savent escalader, c'est le seul truc qu'ils font, hein, escalader, ou attaquer les portes, hein, le fameux pétardement à Castellane, attaquer les portes, qui est toujours la partie la plus sensible. Alors, comment se défendre contre ces routiers? C'est simple, il suffit de mettre, puisqu'ils n'ont pas de canon, hein, il suffit de faire un rempart assez haut. Alors, quand on parle de rempart, on oublie toujours, si je peux me permettre la parenthèse, on oublie toujours de dire à quoi sert un rempart. C'est se définir par l'ennemi qui arrive en face et le type d'agression. S'il a que des boulets de pierre, ben vous faites un mur. S'il a un boulet métallique, ben vous enfoncez ses vaubans dans le sol. S'il a des charges atomiques, ben vous enfoncez complètement comme au plateau d'Albion. Donc là, la seule défense, c'est de monter un grand mur de 8 à 10 mètres de haut. Je crois qu'à Castellane ou à Riez, faire près de 12 mètres de haut. Et donc, ça suffit. En haut, vous stockez non pas de l'huile bouillante, c'est une stupidité qui n'a jamais existé. Il suffit d'avoir des boucs galets du Verdon ou du Plateau que vous laissez tomber sur les gens. C'est trop cher, et puis surtout, c'est très dangereux, parce que quand vous avez un chaudron d'huile bouillante sur le chemin de ronde, et que vous courez pour porter secours à vos amis, et puis que surtout, ça se passe de nuit, alors non seulement c'est trop cher, c'est vrai, mais c'est trop dangereux. Même d'autres produits trop chauds, on dit de l'eau bouillante. Même problème, comment vous le faites? Alors, on fait un mur, mais là, chaque fois, allez, en termes techniques, le flanquement. Quand vous tirez, quel que soit le tir, même sauf le tir moderne aujourd'hui, vous n'avez aucune précision pour empêcher les gens d'approcher. Donc, ce que vous voulez, c'est qu'ils n'escaladent pas, qu'ils ne viennent pas sur le mur. Donc, on fait des avancées sur le mur, c'est les tours, tous les 30 mètres, ça s'appelle le flanquement, qui permettent de regarder à gauche et à droite et de tirer latéralement pour empêcher toutes les approches. Donc, un rempart, c'est un mur, 30 à 40 mètres, une tour, 30 à 40 mètres, une tour, et puis, si possible, deux portes maximum, et les portes étant toujours défendues par, si possible, une herse, et qu'on fait tomber là depuis la pièce du haut, des lourds vantaux de bois, avec des poutres derrière, et si ça ne suffit pas, on fait devant une barbacane, c'est-à-dire un petit obstacle, et quand la barbacane est importante, ben, ça s'appelle un châtelet. Comme à Paris, par exemple, devant Notre-Dame de Paris, il y avait le châtelet du Petit Pont, puis l'autre grand châtelet. Donc, face à ces routiers, ça va vous expliquer toute une série de remparts, alors qui se conjuguent, quand on voit la fortification, ça se conjugue avec ce que je disais avant, sur ces guerres intestines du XIIe siècle. Par exemple, ici, on est à 7 km de Montmélian, qui a des tours du XIIe, et ici, il y a le même rempart, sauf que ça, ici, c'est fin du XVe siècle. Donc, un, les routiers, l'autre, les guerres intestines. Et pas les guerres arabes, les Arabes ne sont pas venus jusqu'ici. Ici, on a eu déjà, ça suffit, on a été Ligures, on a été pillés par les Francs, les Ostrogoths, les Visigoths et les Lombards, avant d'être français à la fin du XVe siècle. Après toutes ces époques dramatiques, on est très étonné quand on regarde l'histoire de voir que l'ensemble de la France, en 20 ou 30 ans, va se renouveler de façon extraordinaire, alors qu'on a perdu plein de populations. On va faire venir d'abord des étrangers, des Italiens, ici en Hongrois par exemple, comme à Régus, puisque la reine Jeanne était mariée à un seigneur hongrois, donc les Hongrois sont venus assez souvent. La France, de façon apparemment étonnante, va se relever très très vite. Sauf que, un siècle après ce qu'on vient de raconter, ça va être le drame à nouveau, où là pendant 30-40 ans, les guerres de religion. Les guerres de religion ici vont être assez terribles, parce que dès le départ, dès 1530 je crois, ou 1540, les castellanes vont adhérer à la religion réformée, notamment avec des calvinistes qui vont être très, très durs. La ville de Riez, qui avait fait ses remparts, s'enferme, parce qu'il y a des escarmouches partout. Eh bien, les calvinistes viennent escalader les murs et prennent la ville de Riez. Et la ville de Riez va être reprise par qui ? Par des Suisses. On retrouve les fameux mercenaires, et par le cardinal de Rouen, maréchal de Retz, qui est la tête de 3000 Suisses, qui viennent donc pendant près de 20 ans, il va y avoir des guerres successives. Et je parlais du plateau de Puberclair tout à l'heure. Un des derniers moments de la guerre de religion, c'est le moment où ce qu'on appelle les ligueurs, c'est-à-dire les protestants, finalement, Henri IV étant arrivé au pouvoir, toute une partie, finalement, des catholiques adhèrent à ce nouveau royaume, sauf toute une partie, hein, ce qu'on va appeler les ligueurs, qui, eux, refusent d'avoir un roi qui était protestant. Et ces ligueurs, en Provence, vont être très forts, dirigés par les Pontévès. Et ici, avoir le dernier combat des ligueurs contre les protestants va se passer contre les troupes du baron d'Allemagne. Le baron d'Allemagne va appeler les Diguières, qui sont des grands chefs militaires protestants qui viennent de Savoie. Pontévès va arriver avec ses troupes, et la rencontre, c'est le plateau de Puberclair. Alors ça, vous avez sur la carte, c'est à l'ouest de Montagnac, le grand plateau. Et là, une guerre épouvantable, puisque là, il va y avoir entre 800 et 1200 morts sur le terrain. Dont le seigneur d'Allemagne, ça rappelle quelque chose sur l'équipement militaire, dont le seigneur d'Allemagne, qui, comme c'est en plein soleil, il a trop chaud, il lève son casque pour boire, et il se prend un tir d'arquebuse en pleine tête. Donc le seigneur d'Allemagne va être tué. Et tous les quelques ligueurs refluent vers Riez, appuyés Riez par les fameux Suisses du maréchal de Retz. Les guerres de religion vont être un moment épouvantable. Comme partout en France, ces remparts que les gens avaient oubliés, parce que ça coûtait très cher, les remparts, et même à les entretenir, et même les gens avaient trouvé très bien, puisque c'était en temps de paix, d'aller coller leur maison contre le rempart. Ça faisait un mur déjà qui existait, il y a qu'à voir à Quinçon par exemple, une de remparts qui est cachée. Donc, effectivement, on voit partout en France la nécessité des remparts revenir, des villes dégager de nouveau des enceintes. Un village comme Saint-Laurent va se fortifier, va avoir un capitaine avec 80 hommes, va faire des barricades, va se faire un territoire de guerre, alors qu'à Quinçon, qui est à 15 km, il ne se passe rien. Alors ça, c'est l'étonnement, et pourtant Quinçon comme Montmélian sont sur la route avec le fameux péage qui est... C'est pas le péage qui attire les gens, il les repousse très plutôt. Mais comme c'est le seul passage obligé, les gens passent ici. Quinçon est resté à l'écart. Donc Riez, ravagé plusieurs fois, Saint-Laurent, équipé, Allemagne et Montagnac, ravagés en partie. Et étonnamment, ça c'est toujours étonnant dans l'histoire militaire, tout d'un coup, un village comme Quinçon qui apparemment ne subit rien du tout.
Les routiers ont existé, ou plutôt sévi jusqu'à quand ?
D'abord, il y a une séquence que j'ai oubliée et qui est dramatique pour nous. C'est qu'entre les routiers et les guerres de religion, il y a eu Raymond de Beaufort, vicomte de Turenne. Ça, 12 ans de ravages dans la région, mais surtout au nord de Riez. Castellane a été touché, Riez juste avancé. C'est qui ce personnage ? C'était un des descendants, un des héritiers de la reine Jeanne. Pas la première, mais la deuxième reine Jeanne.
Quelle année ?
C'est 1388. 1388, je crois que c'est ça, 1388, pendant 10 ans, puisqu'il va disparaître en 1400, pendant 12 ans, le vicomte de Turenne va ravager la région. Pour quelle raison ? Eh bien, quand la reine Jeanne meurt, elle donne tout son héritage, c'est quand même le royaume de Sicile, en partie Jérusalem, toute la Provence, plus les régions d'Avignon. Elle va les donner à Charles de Duras, au lieu de les donner au vicomte de Turenne, qui normalement devait être son héritier. Et pour se venger, c'est épouvantable, il a pris des mercenaires lui aussi, et pendant 12 ans, il va ravager toute la région de la Provence, tous les territoires qui appartenaient à Jeanne de Provence, systématiquement vont être pillés. C'est une suite de routiers, alors cette fois routiers aux ordres d'un personnage, vicomte de Turenne. Donc, puis les compagnies de routiers disparaîtront à peu près à la fin de la guerre de Cent Ans. Les armées commencent à être constituées. Charles VIII va constituer les premières bandes armées, non plus les grandes compagnies, mais des compagnies d'armes, ou des bandes, les bandes picardes. Ce sera l'amorce des armées de métier. Donc, ils disparaissent. Et pour revenir aujourd'hui au XXIe siècle, on a quelques résurgences. Alors, résurgences pacifiques, ce sont les Suisses au Vatican qui gardent la mémoire de ça. Et beaucoup plus dramatique, ce sont les milices de mercenaires qui ont continué à travers le monde. Alors, ça peut être les milices américaines privées qui ont sévi en Afghanistan, on sait les dégâts que ça a fait, qui sévissent en Irak. Ça peut être des milices russes dans le Donbass. Donc un certain nombre de gens, ou même des petites milices privées, on peut appeler ça mercenaires, ou on ne les appelle pas comme ça, mais tous les cartels au Mexique ou en Colombie, qui sont des armées privées, au bénéfice d'intérêts tout à fait privés. Je pense qu'une fois de plus, si on parle des routiers ou si on parle de Riez, il faut les situer dans le paysage et l'histoire. Et quand on dit la géographie, comment on a l'histoire, c'est-à-dire tous ces gens qu'on va amener en Espagne vont descendre à travers l'Empire, et non pas la France, le long du Rhône. Donc déjà, le rôle de la géographie, comment les points forts permettent de se situer, comment les régions travaillent, et puis situer ça dans l'histoire. Tous les routiers, c'est l'histoire de la guerre de Cent Ans, en fait.